C'est moi, c'est Lola. Celle qui dit v'là un bateau, v'là un samedi, v'là des matelots.
Personnage en personne par Charles Danzig. Auteur Sean Ryan, scénariste, producteur, né en 1966, américain, hétérosexuel. Œuvre The Shield, série télévisée, 7 saisons, originellement diffusée aux États-Unis de 2002 à 2008. Personnage, l'inspecteur Victor Mackey, dit Vic, interprété par Michael Chiklis. The Shield, ça veut dire le bouclier. Ce bouclier est l'insigne d'un commissariat de police à Los Angeles dans la série télévisée qui porte ce nom. Quand il montait à l'assaut de ses troupes, Bonaparte criait « En avant, soldat, j'ai le cul rond comme une pomme, j'ai le cul rond comme une pomme !» Eh bien voilà, l'insigne et la parole. Pour l'extérieur, la noblesse du bouclier, l'affichage, l'idéal. Pour l'intérieur, la réalité, l'entre-soi du parler cru. Dans The Shield, un des mots les plus fréquemment employés par l'inspecteur Vic Mackey est Dick, la bite. On l'entend très souvent admonester tel ou tel. Grow a dick, littéralement, fais-toi pousser une bite, autrement dit, deviens adulte. Ou encore, suck my dick, suce-moi la bite, dans le sens de va te faire voir. Le machisme s'exprime sans complexe dans cette série et on se dit que l'insigne du commissariat devrait être un pénis plutôt qu'un bouclier. On se le dit peut-être à tort, tout le monde sait qu'il n'y a pas d'hiatus entre la grossièreté et l'idéal. Ce n'est pas parce qu'il parlerait comme Paul Valéry que Vic Mackey serait meilleur. Et d'ailleurs, Paul Valéry parlait très grossièrement. Il y a des soupapes. Si elles ne sont que des soupapes, permettant de soulager des tensions, on peut les oublier aussi vite qu'un moustique qui a passé. Si elles s'attardent, alors là, il faut voir. Et on cherche à voir dans The Shield, qui n'est qu'accessoirement une série sur des crimes qu'on cherche à résoudre. C'est une série sur le comportement des policiers. Dans un épisode de la quatrième saison, un des inspecteurs dit « Si un type est tué dans le ghetto, mais que les inspecteurs ne viennent pas, le crime a-t-il vraiment eu lieu ?» C'est un point de vue sur le racisme, évidemment, peut-être moins attendu il y a 12 ans quand l'épisode a été diffusé, mais ne pourrait-on pas le généraliser aux policiers français qui s'adressent aux jeunes bourgeois de Paris avec un vocabulaire ordurier parce que c'est moins risqué que de fanfaronner dans les cités ? Et même au-delà à la politique d'inertie qui semble si consubstantielle à la police, comme le montre Leonardo Sciascia dans La disparition de Majorana qui vient d'être réédité chez Alia. Ce qui est intéressant, c'est que la brutalité et la malhonnêteté d'un policier soient montrées dans une série télévisée sans discours moral, alors que les films, eux, en ont très souvent un. Les films, même s'ils ont moins de public, sont plus voyants en quelque sorte. Les séries, comme dissimulées dans le flux permanent de la télévision, même quand elles ont du succès, peuvent insinuer des propositions plus scandaleuses. Qui est Vic Mackey ? Pour en parler, je reçois Ioannis de Roade, professeur d'histoire-géographie, auteur de deux livres sur les séries, le plus récent étant « Dominer le monde, les séries historiques anglo-saxonnes » chez Vendémiaire. Ioannis de Roade, avant le personnage, je voudrais qu'on parle de l'auteur. Qui est ce Sean Ryan qui a écrit tous les épisodes de cette série à succès?
Sean Ryan n'a pas commencé sa carrière avec The Shield. Il s'est fait les dents sur une série beaucoup plus conventionnelle qui s'appelle Nash Bridges et dont on dit souvent qu'elle n'avait que trois priorités. Hein. La première, c'était de faire de son acteur star Don Johnson un policier qui est belle figure. La deuxième priorité, de faire de Don Johnson un policier qui est belle figure. Et la troisième également. Donc voilà, cette série-là, évidemment, n'a pas du tout les mêmes prétentions esthétiques que The Shield. Mais Sean Ryan dit toujours que c'est là qu'il y a appris le métier. Et d'ailleurs, il dit que du point de vue de la structure, et notamment de la façon dont les différentes arches narratives s'entrecroisent, The Shield est bâti comme Nash Bridges. En tout cas, c'est là qu'il y a appris le métier avant de travailler sur quelques autres séries et puis de pouvoir, avec beaucoup de chance, il faut le dire, pouvoir lancer donc The Shield.
À quoi ressemble ce Vic Mackey dont le père était maçon et qui, au début de la série, est dans la police depuis déjà plus de 10 ans?
Vic, c'est donc un homme hétérosexuel, blanc, c'est important parce que il travaille dans un quartier où les blancs sont minoritaires, une carrure impressionnante, menaçante, paraissant toujours prête à bondir, à charger, un peu un taureau qui serait toujours habillé en jean, blouson de cuir, lunettes de soleil, regard très bleu derrière les lunettes, pouvant très vite passer du charme à la menace.
Il a une chose, fortuitement, parce que l'acteur est comme ça, mais qui, me semble-t-il, ajoute quelque chose à son personnage, c'est qu'il a une tache de vin sur la nuque. Et pour moi, quand j'ai regardé cette série, cette tache de vin, c'était presque comme une menace, comme quelque chose de presque un peu diabolique.
Alors, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'un petit peu bizarre dans ce personnage d'emblée. De bizarre aussi quand on connaît l'acteur et d'où il vient, parce que Michael Chiklis s'était fait connaître dans des rôles beaucoup plus ronds, dans des sitcoms et surtout dans une comédie dramatique qui avait eu un relatif succès, qui s'appelait The Commish, dans laquelle il avait plus d'embonpoint, un peu plus de cheveux, où il jouait un rôle beaucoup plus âgé que son âge au moment du tournage. Et c'est une vraie surprise pour ceux qui le connaissaient de le voir arriver en Vic Mackey dans The Shield.
Alors ce Vic Mackey, il est inspecteur dans un commissariat que les policiers appellent entre The Barn, la grange, mais qui est en réalité installé dans une ancienne église.
Oui, une église déconsacrée. Alors évidemment, c'est facile d'y voir là un certain nombre de symboles parce que la série profane un certain nombre de choses et peut-être l'institution policière se trouve-t-elle profanée par le traitement qui en est fait. Et le fait qu'on soit dans un lieu sacré, autrefois sacré, et qui ne l'est plus du tout quand on voit ce qui s'y dit et ce qui s'y passe, évidemment, c'est un choix intéressant. Ça donne aussi une géographie un peu étonnante à ce lieu, sans doute complètement irrationnel et assez invraisemblable, la manière dont sont disposés les espaces à l'intérieur, mais qui produit des effets dramatiques intéressants.
Et puis, il faut aussi dire que la série est filmée pour une série télévisée de manière assez audacieuse, qui est probablement inspirée de certains films de John Cassavetes.
Oui, alors il y a effectivement un soin qui avait été apporté au moment du tournage du pilote notamment pour que l'identité visuelle de la série d'emblée se distingue de ce qui s'était fait, même si ça n'est pas non plus sans précédent. On a cette caméra qui bouge beaucoup, le choix du 16 mm. Et en fait, il y a aussi une origine qui est moins glorieuse peut-être que le cinéma, qui est celle de la télé-réalité, parce que les Américains connaissent bien ces programmes où on suit de vrais policiers dans leurs interventions avec justement toute cette rugosité, toutes ces imperfections qui font vrai. Et dans The Shield, souvent le caméraman avait pour consigne de courir après l'action comme s'il lui-même venait d'y plonger.
En tout cas, ça crée un mélange de donc le commissariat et les mouvements de caméra, à la fois de nervosité et de confinement, qui crée quelque chose de très très particulier.
Oui, c'est accentué aussi par le choix du 4 tiers, du format de l'image. On est à une époque où la plupart des séries commencent à passer au 16/9, et cette évolution technologique-là n'est pas suivie par The Shield, et donc effectivement dans les scènes d'intérieur, les scènes d'interrogatoire notamment, on est vraiment enfermé dans cet écran donc qui est presque carré. C'est assez important vu le nombre de gros plans ou de très gros plans.
Alors l'histoire se passe dans un quartier du centre méridional de Los Angeles, et il faut expliquer aux gens qui ne connaîtraient pas Los Angeles que le centre de Los Angeles n'est vraiment pas bourgeois.
Non, alors à l'extrême centre, effectivement, dans l'hypercentre, on a le quartier des affaires, le Central Business District avec les gratte-ciels, la skyline, mais downtown, donc qui est le nom du quartier environnant, est plutôt paupérisé, et les quartiers qui l'environnent, qui jouxtent downtown, Pico Union, Westlake, etc., sont aussi des quartiers, comme dans beaucoup de villes américaines, qui ont été fuis à partir des années 60 par les classes moyennes blanches, où ils ont été remplacés donc par des minorités ethniques à plus faible pouvoir d'achat. Et donc effectivement, on est tout près des gratte-ciels, on les voit souvent en arrière-plan de Shield, mais on est dans des quartiers qui sont des quartiers populaires.
Et Mackey, dans ce commissariat, dirige ce qu'on appelle la strike team, la très brutale strike team. Dites-nous ce que c'est.
Alors, c'est présenté dans la série comme une unité expérimentale à qui on donne une très grande latitude de moyens d'action pour peu que les résultats suivent, de telle sorte qu'il bénéficie avec ses quelques coéquipiers d'une indépendance, d'une autonomie presque complète, que lui interprète comme une impunité, et qui, évidemment, rapidement va quand même susciter des tensions, notamment de la part donc des supérieurs, des commissaires successifs qui, dans donc le Barn, essayent de reprendre le contrôle des affaires, de la police, et donc notamment de limiter l'action de cette strike team dont il apparaît dès le départ qu'elle se livre à des exactions.
Je crois que cette strike team, au moment où la série est sortie, a rappelé aux Américains une chose qui s'était réellement passée dans la police de Los Angeles à la fin des années 90.
Oui, alors c'était un très grand scandale, effectivement, qui avait fait couler beaucoup d'encre. Donc Rampart, qui est le nom d'un quartier et donc d'une circonscription policière, et donc est un scandale de violence et de corruption. Et d'ailleurs, c'était un des titres envisagés originellement pour The Shield. De telle sorte que c'est vraiment la référence principale. Il s'agit vraiment pour Sean Ryan d'explorer ces dysfonctionnements de la police et la manière dont ces policiers blancs peuvent, encore une fois, dans des quartiers peuplés surtout de minorités ethniques, se livrer à une série d'injustices et d'exactions.
Et puis il y a une chose qui est peut-être très caractéristique de Los Angeles, c'est que c'était aussi la ville des émeutes de Watts en 68. C'était une ville, évidemment, il y avait eu Chicago et d'autres villes, mais Los Angeles a été toujours une ville de tension ethnique très très forte.
Oui, bien sûr, c'est aussi la ville de l'affaire Rodney King, cet Afro-Américain qui avait subi lui aussi des violences policières, largement médiatisées au début des années 1990. Donc on s'inscrit vraiment dans toute une histoire, effectivement, de faits divers, mais aussi toute une histoire sociale de Los Angeles, de la même manière qu'on s'inscrit aussi dans une tradition cinématographique de la violence policière ou de la corruption policière à l'écran, de telle sorte que c'est tout de même assez familier aux spectateurs américains, ce thème.
C'était familier au cinéma, mais est-ce que ça l'était à la télévision? Parce que si on regarde les séries télévisées sur la police ou à sujet policier, il me semble que les premières, je crois qu'il y avait Dragnet dans les années 50, puis ensuite Les Incorruptibles, étaient beaucoup plus flatteuses pour la police. Il me semble que le cinéma abordait plus volontiers la violence que la télé.
Oui, alors c'est pour ça que le pari de The Shield est quand même assez risqué à l'aube des années 2000, parce qu'effectivement, la télévision n'a jamais voulu aborder avant The Shield de front ses problèmes. Et il y avait quand même des hésitations, voire des inquiétudes de la part des diffuseurs sur le succès que pourrait rencontrer auprès d'un public de masse cette série-là. Alors c'est là que c'est important de comprendre un peu le contexte de diffusion, c'est qu'on est sur une chaîne du câble, donc qui vise quand même un public qui est un petit peu plus ciblé. Ceci dit, ce qui a rassuré effectivement le diffuseur, c'était le succès quelques mois auparavant de Training Day, un film avec Denzel Washington, qui dans un contexte d'après 11 septembre, donc a priori peu propice à la mise en scène des violences policières, avait quand même réalisé un gros succès. Et ça a laissé penser aux diffuseurs que le pari de The Shield devait être tenté.
Et c'est un pari d'une audace très nette, car elle n'est pas progressive. C'est-à-dire que dès le premier épisode, le capitaine qui dirige le commissariat et se méfie de ce Vic Mackey dont vous avez évoqué la brutalité, fait entrer dans son équipe un policier chargé de réunir des preuves contre lui. Et que se passe-t-il?
C'est que ce policier infiltré, à la fin de l'épisode pilote, est exécuté froidement, assassiné donc par Vic Mackey, qui avait percé à jour ce qui était en train de se tramer. Alors à mon avis, c'est un peu, c'est à la fois le coup d'éclat, le grand coup d'éclat, et peut-être le principal point faible de la série. Elle place la barre tellement haut, elle nous présente un Vic Mackey déjà tellement immoral, qu'ensuite il sera difficile, tout au long des 7 saisons, de faire commettre à Vic un acte plus répréhensible.
Enfin, la saison, il me semble, tient quand même bien pendant 4 saisons. Les 4 premières saisons sont assez tendues, avec en particulier un épisode où le moment où Vic Mackey organise un attentat contre des voyous de la mafia arménienne pour leur voler leur argent et il tue tout le monde.
Oui, alors il y a deux périodes d'ailleurs de ce fait dans la série. Il y a effectivement les premières saisons où la Strike Team, malgré toutes les menaces qui pèsent constamment sur elle, est plutôt conquérante. Et l'acmé, c'est clairement effectivement cette affaire du money train, cette immense quantité d'argent que la mafia arménienne veut blanchir et sur laquelle donc Vic Mackey et ses hommes mettent la main. Et ce qui devait être leur plus grande victoire va devenir une véritable malédiction, puisque les problèmes s'accumulent à partir de là, et en fait toutes les saisons suivantes jusqu'à la chute finale voient la Strike Team de plus en plus être sur la défensive et finalement paraître jamais vraiment en mesure de se débarrasser de ce problème qui pourtant devait être pour eux le signe du salut.
Nous allons maintenant entendre Marie-Paul Belle chanter La Matraque sur des paroles de Françoise Malégeris et de Michel Grisolia. Elle date de 1976.
Il avait trop d'agressivité, sa maman ne l'avait pas aimé, on lui avait pas donné de caresse, alors il est devenu CRS. Et nuit et jour, par manque d'amour, terre. Il se défoule, frappant à la foule, bravant sans peur la vie de ses supérieurs. Il matraquait, 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 matraquait les jeunes, les beaux, les blancs et les foncés, et même les petits français, et c'était pas truqué. Il matraquait, 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 matraquait dans les rues, les troquets, dans son froc étriqué, complètement détraqué, et c'était pas truqué. Ses chefs lui avaient fait des critiques, vu qu'il avait trop de sens civique. Ça vous l'a rendu contestataire, il s'est mis à cogner sur ses confrères. Et nuit et jour, par manque d'amour, comme une bête, il fait leur fête à tous les siens qui l'ont nourri dans leur syndicat.
Yanis Deroy, d'une chose importante dans The Shield, c'est le rapport de tous ces flics, employant le mot, avec les femmes, et en particulier Vic Mackey. Lui a une femme qu'il trompe, il a une histoire avec une fille qui est droguée, prostituée, dont il se sert comme indic. Il croit être cool parce qu'il aide à monter en grade une femme policière avec qui il couche, avec qui il a un enfant. Mais à chaque fois, il est quand même dans une position de bonne supériorité, de macho.
Alors, position de supériorité, oui. Cependant, toutes ces histoires se soldent en ce qui le concerne par des échecs cuisants. La coéquipière avec qui il a un enfant refuse d'être associée à lui une fois qu'elle a compris à qui elle avait affaire, et en tout cas tient absolument à ce qu'il n'ait aucun droit sur cet enfant. Et puis surtout, sa femme devient très vite son ex-femme, va s'éloigner de plus en plus de lui jusqu'à le trahir complètement, et finalement, je me permets ce spoiler car la série est un peu ancienne, s'enfuir avec ses enfants pour reconstruire sa vie dans l'anonymat en bénéficiant d'un programme de protection de témoins, parce qu'elle l'a chargé sur toute la ligne. Donc il finit remarquablement seul, justement sans aucune de ses femmes avec qui il a pu avoir une histoire, et surtout sans la sienne, qu'il aimait, on va dire, à sa façon.
Au fur et à mesure des saisons, et en particulier dans la cinquième, je trouve qu'il devient de plus en plus animal dans la cinquième saison. Un officier enquête encore sur lui, c'est une chose, un motif assez récurrent dans la série. Eh bien, il couche avec la femme de cet officier, qui est mentalement fragile d'ailleurs. Et ça, c'est vraiment un comportement d'animal de tenter de prendre la femme de l'autre pour le dominer. Et d'ailleurs, l'autre devient fou, met de fausses preuves dans la maison de Vic Mackey et finit lui-même en prison.
Oui, alors moi j'y vois une manière pour les scénaristes de traduire le désespoir grandissant de Vic, qui est de plus en plus cerné, les menaces se font de plus en plus précises, de plus en plus dangereuses, et puis surtout au fil des saisons, à la suite justement de cette affaire de la mafia arménienne, la Strike Team éclate progressivement, de telle sorte qu'il se retrouve là encore de plus en plus isolé. Un de ses coéquipiers meurt, l'autre va devenir son pire ennemi, et ainsi de suite, de telle sorte que il est de plus en plus acculé et donc effectivement conduit aux dernières extrémités pour s'en sortir.
À la fin, il fait un marché, comme le permet la justice américaine, pour éviter la prison. Et à ce moment-là, il regarde une photo de sa femme et de ses enfants. Ses yeux se remplissent de larmes. Tout d'un coup, la brute devient sentimentale. Peut-être qu'elles le sont toutes, d'ailleurs. Il prend un pistolet et il sort dans la nuit. Est-ce qu'on doit comprendre qu'il va se suicider ?
Alors non, pas du tout, hein, à mon avis. Ça, c'est la toute dernière scène, effectivement. Mackey se retrouve dans une espèce de prison dorée. Il bénéficie de cette immunité, mais il est assigné à un travail de bureau qui est absolument pour lui l'enfer sur terre, hein, pour cet homme de rue et de terrain. L'institution fédérale avec laquelle donc il collabore lui fait bien comprendre, une fois la gravité de ses crimes révélés, qu'elle n'aura de cesse de chercher à le faire trébucher pour pouvoir finalement retourner ses crimes contre lui. Donc il s'apprête à passer plusieurs années dans cette situation d'enfermement où finalement tout le monde veut sa perte, et encore une fois coupé de sa famille et de ses amis qui l'ont trahi, qui l'a trahi, qui sont morts, etc. Le fait qu'il empoigne l'arme dont il est censé s'être débarrassé avant, mais peu importe, pour sortir dans la nuit, j'y vois plutôt au contraire un retour aux vieilles habitudes, un réflexe primaire, vital, c'est-à-dire que se sentant diminué, humilié, il ne retrouve sa vitalité qu'en saisissant à nouveau cette arme, en sortant à nouveau dans la nuit, alors qu'il devrait rentrer chez lui. Et j'ai plutôt l'impression qu'il s'apprête à faire passer un très mauvais quart d'heure à quiconque croisera son chemin.
En fait, est-ce que vous diriez que c'est le seul personnage de la série qui n'est pas évolué ? Car on les voit, à peu près tous les membres de la Strike Team et certains commissaires d'ailleurs, on les voit les uns refouler une sexualité, les autres devenir meurtriers, etc. Lui reste ce bloc immuable en quelque sorte de violence.
Oui, c'est peut-être effectivement celui qui est le plus immuable. C'est pour ça qu'en comparaison, c'est tout son monde autour de lui qui évolue beaucoup et qui s'effondre en réalité. De telle sorte que cette figure du policier brutal, corrompu, qui finalement était relativement réolé de succès au départ, n'est plus qu'un échec tragique dans les derniers moments de la série. Tout a disparu. Tout s'est effondré, sauf lui, qui n'a plus de prise, du coup, sur ce monde.
C'est une série où la sexualité est particulièrement importante pour Vic Mackey, comme pour les autres, mais surtout pour lui, sans toutefois être centrale. On dirait que pour lui, c'est un assouvissement. Au début, on le voit avec un jeune policier noir qui se révèle gay. On se dit, il va lui casser la gueule, et absolument pas du tout. Il se comporte sans homophobie, alors qu'on voit d'autres policiers dans la série qui le sont. Et pour lui, la moralité ou l'immoralité ne se situe pas du tout dans la sexualité.
Non, effectivement. Alors la série a un point de vue sur la sexualité qui est très sombre, qui d'ailleurs à mon avis manque un peu de nuances. Aucun personnage n'a de sexualité heureuse. C'est poussé à un point, bon, qui est peut être un peu lassant. On a l'impression effectivement que la série elle-même considère cet enjeu comme secondaire. Mackey utilise la sexualité pour parvenir à ses fins. Évidemment. Les autres arcs narratifs qui semblent accorder une grande importance à ce thème finalement finissent par s'en détacher, et le policier gay donc qui traverse une crise, finalement cette crise n'est jamais résolue. Il demeure en tout cas pour la façade extérieure hétérosexuel, marié, chrétien pratiquant, sans qu'on voit ressurgir cette crise jusqu'à la fin de la série.
En même temps, je ne voudrais pas faire de psychanalyse facile, mais il y a comme un complexe du pénis dans le langage de Vic Mackey. D'abord dans son vocabulaire, je l'ai dit tout à l'heure, mais il y a littéralement dans un épisode un pénis dans la bouche d'un des personnages, et qui est une des scènes cruciales. Et ça, on dirait que c'est une chose comme une tragédie antique.
Effectivement, bon, beaucoup d'affaires policières tournent autour de ces d'histoires de sexualité généralement affreuses. Il y a beaucoup question de prostitution, de viol. Aceveda, donc, qui est le premier commissaire dans l'histoire de la série, est lui-même violé au cours de la saison 3, et le traumatisme qui s'ensuit nous est décrit avec beaucoup d'attention. Donc la série s'intéresse effectivement beaucoup à ça et ne recule jamais devant la possibilité d'offrir un visuel horrifique associé à la sexualité. Donc on est vraiment dans quelque chose d'assez osé de ce point de vue-là, mais encore une fois uniformément sombre, de telle sorte que les tensions liées à la sexualité sont peut-être pas explorées autant qu'elles auraient pu l'être.
Il y a une autre scène où le commissaire dont vous parlez, Aceveda, visionne une vidéo de viol et se masturbe en la regardant. Alors effectivement, c'est sordide, mais qu'est-ce qui nous permet de dire que dans un commissariat de police, une chose pareille ne s'est jamais produite ?
Effectivement, la justification que donnaient souvent les scénaristes de The Shield quand on signalait la violence des scènes liées à la sexualité ou pas, était qu'elle était très bien documentée, cette violence. Et effectivement, de ce point de vue-là, on peut sans peine, dans les faits divers qui ont parcouru l'histoire de la police de Los Angeles, trouver des affaires similaires ou encore plus effrayantes.
Alors, The Shield, c'est une série où l'intime ne vient, au fond, pas en conflit avec le travail. Telle personne fait ça et ça n'est pas plus grave que ça. Il n'y a pas d'hypocrisie dans la série. On peut dire, c'est bien le moins qu'on puisse dire d'ailleurs, c'est qu'elle n'est pas puritaine. Elle ne juge pas des comportements intimes. On pourrait dire que tout ça a changé avec MeToo, mais quand on voit la Ligue du LOL et autres gracieusetés, finalement, on a l'impression que ces comportements font partie du fond de gorillisme de l'être du mal moyen, non ?
On le disait tout à l'heure, The Shield s'inscrit dans toute une tradition de représentation de la crudité policière à l'écran qui paraît en effet traverser les époques. Hein. Elle n'a pas toujours été représentée, mais on comprend qu'elle a toujours existé et en effet qu'elle a perduré ensuite. Je ferai un petit bémol sur la manière dont c'est représenté dans The Shield, parce qu'il faut pas oublier que comme elle est diffusée sur une chaîne qui dépend de la publicité, il y a tout de même un certain nombre de choses sur The Shield qui ne peuvent pas être dites. Et ça, c'est important parce que le langage y est très grossier, mais il l'est beaucoup moins que celui d'autres séries policières. Des mots très simples, comme fuck, ne peuvent pas être dits dans The Shield.
On peut dire dick, mais on peut pas dire fuck.
Exactement. Alors, c'est une tradition bien connue à la télévision. George Carlin, un comique, en avait fait un sketch, hein, qui parlait des 7 mots qu'on ne peut pas prononcer à la télévision. Et effectivement, les chaînes qui dépendent de la publicité, donc les grands networks ou les chaînes du câble qu'on appelle basic cable, ont à respecter cette liste de mots. En sont exemptées les chaînes à péage comme HBO, où l'on peut effectivement dire fuck ou d'autres mots à loisir. Il y a dans The Wire, qui est une grande série policière de ces années-là, une célèbre scène qu'on appelle la scène des fuck, parce que c'est le seul mot que prononcent deux détectives alors qu'ils sont en train de mettre à jour la manière dont un criminel a pu commettre son forfait. Ça, c'est quelque chose qui est impensable dans The Shield. Dans The Shield, le mot fuck est prononcé une fois, c'est quand la femme de Vic Mackey apprend que un de ses enfants souffre d'autisme.
Si The Shield ne juge pas les comportements intimes, en revanche, c'est une série qui juge les comportements publics et il y a sans arrêt des analyses, des ruses de communication des policiers avec les journalistes, avec les médias. Et ça, c'est une chose, je ne sais pas si ça existait avant dans les séries télévisées, mais c'est une chose que je trouve relativement bien faite dans The Shield.
De ce point de vue-là, le début des années 2000, c'est quand même une époque de floraison de l'éloquence télévisuelle. Pour la rapprocher d'une autre série qui est très différente, mais qui est une série distinguée pour ses discours, de West Wing, la série où Martin Sheen interprétait le président des États-Unis, était une série au dialogue brillant. Bon, alors dans The Shield, on n'est pas dans cette même brillance, mais on est dans une série qui est en réalité très éloquente. Et ce qui est remarquable, c'est que la série soit brutale, grossière, mais très subtile dans les mécanismes rhétoriques et oratoires que les personnages utilisent pour se justifier, tromper, séduire, etc.
Pour comparer avec la France, il me semble que pendant très longtemps, et peut-être même encore, la France n'a jamais eu d'exemple aussi violent de série sur la police, et je me demande, en tout cas à la télévision, et je me demande si ça ne vient pas d'une espèce de complaisance française de la comédie qui trouve très sympathique les flics ou voyous et autres ripoux. Est-ce que nous n'avons pas en France, dans la fiction policière, une complaisance envers la violence ?
Oui, encore qu'on ne parle pas tout à fait de la même violence, enfin, au sens où quand elle est représentée effectivement dans le cinéma ou la série française, et justement on pense au ripoux, elle est considérablement édulcorée par rapport à ce que les Américains mettent en scène.
Et trouvée sympathique.
Oui, c'est quelque chose effectivement qui singularise The Shield, la façon dont ils ont pu aller aussi loin sur ce thème. Alors ils avaient été encouragés en ce sens par The Sopranos, la série de HBO, dont le héros était un mafieux, mais qui était la première à mettre en scène un personnage mauvais, méchant. C'est quelque chose qui ne s'est jamais produit à la télévision française, et les écrans français, en tout cas la télévision, demeurent peuplés de gendarmes. Quand on regarde France 3, par exemple, on a presque tous les soirs des gendarmes qui sont remarquablement intègres.
Yoannis de Roide, que vous a appris le personnage de Vic Mackey ?
Ce qu'il m'a appris justement, c'est ça, c'est que le policier peut être brutal, peut être violent, sans avoir forcément recours au langage le plus ordurier. Et quand on écoute attentivement The Shield, effectivement, le propos est sillonné de termes injurieux, mais il en évite un certain nombre d'autres qui sont pourtant très courants au cinéma et dans certaines séries, et ça force le personnage en fait à devenir un bon orateur. Et ça, je crois que ça a pu jouer aussi comme modèle pour des personnages négatifs, brutaux, mais qui ne se résument pas à cette violence verbale.
C'était Personnage en personne, le 72e. La semaine prochaine, je parlerai du personnage de Querelle, créé par Jean Genet dans son roman Querelle.
Comme si j'étais assis là-haut au paradis, de l'autre côté.
Réalisation Clotilde Pivin, attachée de production Pascaline Bonnet. Dans un instant, une saison au théâtre avec Joël Gaillot.
C'était un grand jeudi. De l'autre côté de la rue.